Bienvenue à tous, nous sommes de nouveau sur l'émission Colvette Céder, l'émission qui parle de vos animaux à plumes à poils et nos animaux de compagnie bien sûr. Nous sommes sur Radio Judaïca 90.2 FM et sur les réseaux sociaux www.radiojudaïca.be. Toujours en compagnie de nos collègues et amis, Rémi Bockner qui est revenu avec, en bonne santé parce qu'elle nous avait manqué pendant 2-3 émissions. On est heureux de la retrouver en forme.
Ravie d'être là.
Merci Rémi. Et Valérie Lada, toujours pleine de conseils, pleine d'astuces, pleine d'informations pertinentes et qui va nous aider à discuter aujourd'hui d'un sujet sérieux. Puisqu'on a décidé de vous parler de l'euthanasie, cette phase de la fin de vie de nos animaux que nous connaissons d'une manière ou d'une autre tous, selon la façon dont nous pratiquons notre médecine vétérinaire, parfois quotidiennement, parfois sporadiquement. Elle reste un acte difficile, elle reste une décision collégiale et on va essayer de discuter de quand prendre cette décision, pourquoi. Et puis peut-être aussi de parler un peu de la période après le départ de son préféré compagnon en parlant du deuil un petit peu. On va essayer de mettre tout ça dans l'émission aujourd'hui. Valérie et Rémi, vous pratiquez bien sûr toutes les deux cet acte difficile. Si on mettait déjà les jalons de... Quand est venu le moment de pratiquer cet acte difficile? Quelles sont les raisons pour lesquelles on les fait et de quelle manière on gère la décision à prendre avec le propriétaire, bien sûr? Qui veut répondre, Rémi ou Valérie? On commence par Rémi.
Mais je pense qu'il n'y a pas de règle définie. Je pense que, comme pour l'humain, chaque cas est différent. Et chacun est différent face à la souffrance et face à la mort, surtout face à la mort, je pense. Ce que le vétérinaire a comme rôle dans ce cas-là, c'est vraiment d'avoir un vrai dialogue avec son interlocuteur, c'est-à-dire l'interface entre l'animal et nous, c'est quand même l'humain, et c'est l'humain qui va prendre la décision. Et le rôle du vétérinaire, rôle très délicat, je trouve, parfois, c'est de comprendre si l'humain parle d'euthanasie parce que l'idée de la souffrance de son animal lui est insupportable. Et donc, évaluer si c'est un propriétaire qui peut accompagner son animal à travers une maladie chronique, peut-être très douloureuse, ou à travers un cancer foudroyant. C'est l'aider à prendre la décision et l'accompagner vers le moment où on passera à l'acte.
Oui, puis préciser, donc l'euthanasie, on parle bien sûr d'une euthanasie qui est une euthanasie lorsqu'on est face à un animal qui va mourir d'une maladie grave ou qui a été accidentée, qu'on ne peut pas sauver. Et donc voilà, ce sont les cas pour lesquels on intervient. Il ne s'agit pas du tout ici d'une euthanasie de convenance.
Certainement.
C'est-à-dire une personne qui va prétexter, avoir une excuse pour dire qu'il veut en gros se débarrasser de son animal et nous demander d'euthanasier son animal. Parce que ça, c'est vrai que généralement, enfin en tout cas Rémi et moi, on refuse. Après, l'accompagnement, je crois que la question principale, souvent, quand on est face à un propriétaire d'un animal qui va mourir, donc qui se prépare à mourir parce que sa maladie est grave ou qu'il a été accidenté, etc., c'est vraiment, mes docteurs, quand est-ce que je vais savoir que c'est le moment? C'est la principale question que nous posent les propriétaires d'animaux. Et ce que je réponds généralement, c'est d'essayer de... que les gens se laissent un peu guider par leur animal. Parce que très souvent, enfin, ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais souvent, leur animal, leur chien, leur chat, leur enverront des signaux. Et donc
que eux seuls pourront comprendre peut-être ou
oui,
c'est...
je pense que s'ils sont vraiment très forts à l'écoute de leur animal, ils sentiront quand l'animal abdique. Mais il faut aussi qu'ils puissent faire un travail sur eux-mêmes, parce que je pense que l'animal ne part que si le maître est prêt à ce qu'il parte. Je pense que c'est vraiment aussi très important. Souvent quand on est, quand on accompagne un chien, c'est souvent un chat qu'on connaît depuis des années.
Oui, donc, certainement.
On a découvert la maladie, on a accompagné la famille de l'animal et l'animal tout du long de cette maladie. Et donc, ce qui fait que on est un peu en mode de combattant, en fait, de vouloir vraiment. Ce qu'on recherche, c'est, si c'est pas une guérison, c'est en tout cas un bien-être pour l'animal, un confort, voilà. Et puis qu'on puisse, voilà, garder l'animal le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Mais à un moment donné, on est au bout de ce chemin-là, et il faut pouvoir renoncer à ce combat et laisser l'animal partir. Et je pense que quand il y a vraiment une bonne connexion et que le cœur de l'animal et le cœur de son maître sont en diapason, ben je pense que le moment où le maître renonce au départ de son animal et le moment où l'animal baisse les armes quelque part et se sent prêt aussi à partir, et donc il envoie forcément des messages on sent que l'animal n'a plus envie de se battre et que c'est le bon moment pour intervenir.
C'est pas toujours le cas, je trouve.
Non, c'est-à-dire là,
c'est parfois difficile. Oui, oui. Je l'ai vécu personnellement.
Oui, tout à fait. C'est pas toujours facile, mais c'est le cheminement.
Mais de voir alors que je suis vétérinaire, de voir que Titi, que tu as connue, avait perdu la tête. Elle n'était plus là. Et c'est après coup que j'ai vraiment vu qu'en fait, elle avait plus de joie à sortir. Elle était que centrée sur la nourriture, sans savoir si elle avait mangé déjà ou pas. Et je pense que dans certains cas, on doit vraiment... Enfin, je suis sûre que tu le fais comme je le fais. C'est qu'on aide les gens avec des symptômes objectifs ou avec notre ressenti face à l'animal que eux peuvent pas avoir parce qu'ils sont trop impliqués, justement.
Je me permets juste de vous interrompre. Du point de vue de mon travail, qui est le diagnostic à annoncer, parce que on voit des choses, des choses graves. J'ai l'habitude de dire, les gens me disent, mais docteur, c'est combien de temps il va vivre avec ça? Et alors je leur réponds, le problème maintenant, c'est de ne plus dire combien de temps ils vont vivre, c'est
d'améliorer, d'accompagner.
Parce qu'on a tellement d'outils, de moyens, conserver,
On est dans du palliatif.
Voilà. Et finalement, la question ne sait pas quand, mais c'est jusqu'où, quand est-ce qu'on arrête? Parce qu'on peut toujours, ce moment-là. Il dépend de tellement de facteurs.
Et en fait, ça dépendra un peu de la famille. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui, une fois l'annonce de la maladie qui amènera l'animal à mourir dans une échéance assez rapide, on a parfois des personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à gérer ça. Et donc, ce sont des personnes qui ne veulent absolument pas que leur animal souffre. Et ils ne le veulent tellement pas. Ils souffrent tellement eux-mêmes à cette idée qu'en fait, ils vont probablement prendre une décision d'euthanasie plus rapide qu'une famille qui va se dire, on va accompagner notre animal, on va gérer ses douleurs éventuelles, on va pas faire d'acharnement, parce que ça, Rénie, comme moi, comme toi, on n'est pas dans de l'acharnement, on est juste dans de l'accompagnement, dans du palliatif. On a suffisamment d'outils maintenant pour lutter contre la douleur, mais ce qu'on veut, c'est que l'animal et sa famille soient dans un confort et dans dans un moment déjà qui permettra aussi au propriétaire de l'animal à faire son deuil en toute bonne conscience. Parce que je pense que tout ce travail en amont de diagnostic déjà, parce que d'avoir un diagnostic, ça aide aussi beaucoup. Quand on a un diagnostic de maladie mortelle, on sait que de toute façon, malheureusement, on ne pourra pas faire autrement à un moment donné que de prendre une décision d'euthanasie. Mmh. Et puis ensuite, il y a aussi tout cet accompagnement avec une gestion de la douleur et avec finalement un animal qui vit bien. Moi, j'ai un vieux chien qui s'appelait Puck et c'est un chien à qui on a diagnostiqué une tumeur œsophagienne et qui a vécu un an dans un très très bon confort. Il mangeait, il courait, il jouait, bon, il maigrissait un petit peu à cause de sa maladie. Là. Voilà. Et puis jusqu'à un certain moment où tout s'est arrêté. En fait, il voulait plus manger, il voulait plus se lever, mais ça a été assez rapide. Mais donc, ça a été un an d'accompagnement avec une maladie qui allait nous amener à prendre cette décision d'euthanasie.
Mais donc, parfois, c'est formidable pour les gens de pouvoir se faire, et faire à la séparation pendant un an avec le confort de l'animal malgré sa maladie.
Et mettre en place des soins palliatifs où les maîtres se rendent compte que leur chien ou leur chat vivent leur petite vie, profitent. L'animal n'a pas peur de la mort comme nous. Hein.
Il n'en est pas conscient.
Ouais. Et donc, du coup, là aussi, il faut expliquer ça aux gens, parce que les gens projettent tout ce qu'eux ressentent sur la mort, ils vont le projeter sur leur animal, c'est inévitable.
Absolument, c'est l'anthropomorphisme complètement.
Voilà. Et alors, du coup, l'euthanasie à ce moment-là, ça va être une euthanasie faite en paix et en bonne conscience. Et donc, le propriétaire de l'animal fera son deuil tellement plus facilement que si c'est quelque chose malheureusement aussi de violent, un animal qui se fait renverser par une voiture et qui meurt dans les 5 minutes,
ou même
si on décide d'euthanasier dans l'heure parce qu'il est trop abîmé, on ne peut plus rien faire, ça va être très violent pour le propriétaire. Oui. Ou même un propriétaire qui retrouve son animal mort brutalement, d'un arrêt cardiaque, une mort brutale, ben c'est clair que ça va être très difficile. Le deuil sera beaucoup... C'est très violent pour le propriétaire de l'animal.
Alors, on a tous entendu, je voudrais en fin de vie. Hein, les propriétaires d'un animal en fin de vie disent souvent, j'aimerais qu'il meure tout seul.
Et je leur explique
que ce n'est pas facile.
C'est rare. Ouais,
Et puis, ce n'est pas facile, sauf si c'est un très vieil animal.
C'est ça, voilà.
Hein, mais ce n'est pas facile à accepter de rentrer chez soi et de retrouver son animal mort.
Oui, c'est ça.
Alors que c'est un fantasme. Je voudrais qu'il...
Parce qu'il y a c'est que c'est de ne pas prendre... Je crois que c'est de prendre cette décision qui est difficile, en fait.
Est-ce que quand l'animal est encore bien, mais que le propriétaire refuse l'idée de la mort certaine et de la souffrance éventuelle et
de l'accompagnement,
est-ce que vous êtes plus à l'écoute du propriétaire ou plus à l'écoute de cet œil vif encore qui dit...
C'est notre boulot.
C'est compliqué, j'imagine.
C'est difficile parce que... Réponds.
Non, mais moi, je réponds d'une façon et toi d'une autre.
Oui, bon, il faut se compléter.
Donc, on est d'abord les défenseurs des animaux.
Oui.
Moi, j'explique ça aux gens. Moi, je vais d'abord penser
l'animal. Est prioritaire.
L'animal est prioritaire.
Oui. Magnifique. Et puis, on fait des compromis le mieux qu'on puisse.
Oui.
On va peut-être faire une petite pause musicale pour se remettre de ses émotions. Et on en reparle tout de suite.
Ne me quitte pas. Il faut oublier. Tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il n'y a pas. n'a plus peur. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras roi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Superbe chanson de circonstance, il me semblait important de la passer aujourd'hui.
Très émouvant.
Nous reparlons donc de l'euthanasie, sujet important en médecine vétérinaire, parce qu'elle concerne tous les praticiens. Rémi, toi, tu as un outil particulier pour être plus...
visuel.
C'est visuel. Du coup, pour être plus relaxe et plus certaine de savoir quand c'est le moment.
C'est-à-dire que j'ai la capacité de sentir avec mes mains l'épaisseur des corps énergétiques, donc de l'énergie qui entoure chaque être vivant. Et je peux montrer... Et je le fais dans la période qui précède, jusqu'au moment définitif où il n'y a plus de corps énergétique. Avant la mort, on n'a plus qu'un corps physique.
Ah oui.
Et c'est comme on discutait, Valérie et moi, ça se voit qu'il n'y a plus d'énergie.
Oui.
Mais le fait de pouvoir montrer que cette énergie, elle est tellement fine
ténue et
limitée au minimum dans le corps, ça conforte en fait.
Quand on n'a pas cet outil, et que ça rejoint un peu l'idée de Valérie qui disait les gens le sentent, c'est finalement peut-être une forme de ressenti extrasensoriel.
De se mettre en phase avec l'animal. Et alors là, ce qui se passe, chacun l'interprète à sa façon, mais il y a vraiment une connexion. Et donc, on peut ressentir quand l'animal n'a plus cette énergie que Rémi décrit. Donc voilà, et c'est important parce que cet outil que Rémi propose, ça aide, je pense, beaucoup les gens aussi. Parce que, enfin, comme on en parlait pendant la pause, c'est important de prendre cette décision en bonne conscience. Et on évoquait la culpabilité ensemble avec Rémi là tout de suite, parce que c'est important de ne pas se sentir coupable et d'être en paix avec cette décision.
C'est ça, parce qu'il faut prendre cette décision et qu'on n'a pas toujours le choix de voir son animal décéder naturellement.
Et c'est un acte d'amour.
Tout à fait.
Oui, vu sous cet angle, certainement.
Et je suis sûre que toi comme moi, on le dit.
Bien sûr.
Pour que les gens ne se sentent pas coupables et s'en rendent compte que c'est vraiment...
Ça soulage la conscience et l'état d'âme sur ce sujet. Je vais me tourner vers toi, Valérie. L'acte, pratiquement, comment se passe une euthanasie en médecine vétérinaire?
Déjà, on peut parler aussi de l'entourage. On peut se retrouver avec le maître et son animal ou bien toute une famille réunie autour de l'animal. Je pense que c'est important que toutes les personnes qui soient attachées à l'animal et qui aient envie d'être présentes le soient. Donc, j'ai déjà procédé à des euthanasies avec 10 personnes autour du chien ou du chat.
Magnifique.
Parce que c'était important que toutes ces personnes soient là.
Et moi-même c'est... avec quelqu'un en vidéo. Un enfant au bout du monde. On lui montrait le chien. C'était un chien.
Ouais, ouais.
C'est important pour les enfants, bien sûr, de réaliser le départ.
Oui.
Est-ce que ça se fait toujours au cabinet ? Ça peut se faire à la maison ?
Alors, ça se fait au cabinet, mais ça se fait surtout à la maison, je pense quand même, parce que c'est important. L'animal est quand même stressé au cabinet. Alors, s'il est encore un petit peu conscient, c'est vrai que ça peut le stresser davantage. Après, il y a aussi ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y a des familles qui préfèrent ne pas procéder à l'euthanasie à la maison parce qu'ils ont peur après
d'avoir le souvenir
et d'être traumatisé. Donc ça, c'est vraiment... Je crois qu'il n'y a pas de règle.
C'est ça.
Il faut essayer de faire le mieux... et puis on n'est pas obligé de faire l'euthanasie dans le cabinet, sur la table. On peut faire l'euthanasie dans les bras du maître, assis dans un fauteuil, dans la salle d'attente. Voilà, on essaye de faire au mieux pour que l'animal et le maître se sentent le mieux possible à ce moment-là. Et alors, comment procède-t-on à une euthanasie ? Donc en général, il y a une première étape qui est une sédation pour que l'animal soit apaisé. Souvent... Non.
Une injection dans les fesses, c'est de ça que tu
parles ? Pas toujours, en fait, ça peut être en intraveineux ou en intramusculaire. Donc ça dépend un petit peu de l'animal, ça dépend un peu de son stress, ça dépend un peu de la veine. Ça dépend un petit peu. Donc il y a d'abord une sédation, puis une anesthésie. Donc l'animal est complètement anesthésié, comme pour une chirurgie. Et quand il est complètement anesthésié, à ce moment-là, on procède à une injection létale de barbiturique très puissant qui va arrêter le cœur.
C'est ça.
Donc on explique bien toutes ces étapes, bien sûr, à la famille. Et puis on explique aussi que parfois on peut avoir certains réflexes ou un soupir qui peut un peu saisir les propriétaires.
Des mouvements aussi.
Alors il y a aussi le choix du propriétaire. Il y a parfois des gens qui préfèrent. J'ai un peu envie de dire qu'il faut être courageux. C'est-à-dire que je pense que c'est quand même important d'être là, au moins jusqu'au stade de l'anesthésie, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas rester jusqu'au bout. Mais je dis aux gens, restez au moins avec votre animal le temps qu'il soit déconnecté. Parce que je pense que la présence du maître auprès de l'animal est quand même importante. Ça le rassure.
Ça le rassure,
tout à fait.
Ouais,
c'est ça. Voilà. Et puis, donc, on procède à l'injection létale de barbiturique qui va arrêter son cœur. Et alors, à ce moment-là, souvent, on laisse un petit moment les gens avec leur animal pour leur dire au revoir. Un moment de recueillement. Parfois, on reste. Parfois, on laisse la famille ensemble. Ça dépend un peu aussi des familles. Et voilà.
C'est ça.
Et donc, c'est un processus non douloureux.
Oui.
C'est important.
Oui. C'est euthanasie, parce que ça veut dire beau décès. Mort.
Oui. Et alors aussi, avec l'aide, donc dans le protocole, il y a aussi présence de morphinique. J'ai oublié de le dire, mais quand on procède à l'anesthésie, il y a une partie qui est, en tout cas, nous, on le fait. Moi, j'utilise toujours un morphinique pour être certaine que le processus ne soit pas douloureux.
Magnifique. Pratiquement, les propriétaires s'en vont. On n'a pas le droit en Belgique d'enterrer son animal dans son jardin.
On n'a pas le droit. Voilà.
Bon, c'est la loi.
No comment.
Mais tout le monde le fait.
Je crois que c'est qu'à Bruxelles.
Ah, peut-être. J'aurais dû préparer mieux l'émission et me renseigner sur le côté juridique de la chose. Mais en général, on propose à la famille de laisser le petit corps à une société qui s'occupe de l'incinérer, soit de manière individuelle, soit de manière collective. Après, il y a plein de propositions pour récolter les cendres, toutes sortes de choses.
C'est-à-dire quand l'incinération est individuelle, il y a la possibilité de revoir les cendres dans une urne que le propriétaire choisit.
C'est ça.
Et de cette manière-là, il peut vivre son deuil et soit garder les cendres près de lui sur la cheminée du salon, ou bien éparpiller les cendres dans un endroit où le chien aimait se promener. Après, chacun fait comme il le ressent.
C'est ça.
Et puis, il y a des cimetières aussi pour animaux.
Oui, notamment à Uccle, je pense qu'il y a une partie.
À Rosière, il y en a un. Il y en a un qui s'est ouvert à Haut-Lieu-Saint-Pierre, mais qui est uniquement pour les habitants de Haut-Lieu-Saint-Pierre.
Très bien.
Et voilà, il faut un petit peu se renseigner. C'est vrai qu'on, enfin, c'est moins fréquent que les gens nous demandent le nom d'un cimetière, mais c'est aussi une possibilité.
Magnifique. Sinon, malgré tout, il y a, si on a un petit bout de jardin,
bah oui,
je pense que...
Un petit bout de jardin et un petit bout d'animal, c'est-à-dire un je ne dis pas un grand molosse de 40 kilos, mais si on a un petit chat voilà. Ou un petit chien, voilà.
Et ça fait toujours plaisir de les avoir pas loin. Oui. Et j'imagine qu'en dehors de Bruxelles, c'est encore plus simple parce que les maisons sont facilement...
Oui. Et puis, ça permet, je trouve que ça permet de faire une petite cérémonie. Pour les enfants, c'est parfois les gens ont souvent la question par rapport aux enfants, de comment ils doivent réagir par rapport aux enfants. Je pense que c'est important que les enfants sachent, même petits. Maintenant, ils ne sont pas toujours prêts à voir l'animal décédé. Ou... Je crois qu'il faut répondre, l'enfant, il faut répondre à ses questions. Je pense qu'il ne faut rien lui imposer, mais en tout cas répondre à ses questions. Et puis parfois, le petit rituel de faire un dessin, d'écrire une petite lettre, de mettre une petite fleur ou de planter une petite fleur.
Oui, de faire un joli enterrement.
Voilà, c'est ça.
Ça les aide
à faire leur deuil.
Oui, c'est
mais, ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut rien imposer à un enfant. Il ne faut pas lui imposer de voir l'animal décédé. Mais je pense qu'il faut quand même il faut mettre des mots sur ça. C'est important parce que de ne pas dire « Oh, mais tu sais, il était malade et voilà, il est parti sans explication vraiment concrète. » Je pense qu'alors l'enfant peut fantasmer de manière un peu négative là-dessus et peut-être en sortir un petit peu traumatisé. Quoi.
Oui, c'est important de dire les choses clairement.
Ouais, ouais.
Le deuil est tout un sujet qu'on devrait peut-être développer. On arrive malheureusement déjà au bout de notre émission. Ce fut un plaisir de discuter de ces choses sérieuses, mais en même temps avec beaucoup de retenue, beaucoup d'empathie. Ça reste notre métier reste, je pense, un métier de vie, de vivant. Et la délicatesse avec laquelle on a cette relation humaine avec les propriétaires et avec les animaux reste très belle. On est chanceux de pratiquer, je pense, cette belle profession. Merci à vous deux et on vous dit à très bientôt.
Merci à toi.
On aura encore plein d'autres sujets à discuter. Bonne soirée à tous.